R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Bonsoir. Avant de commencer, je voulais saluer les étudiants, les amis, les collègues qui ont eu la curiosité d'écouter un bout de mon travail ce soir. Et tout comme ceux que je ne connais pas, d'ailleurs. Et remercier Olivier Marbeuf de permettre ce moment et toute l'équipe de Kiasma, qui m'ont très bien accueilli. Voilà. Donc ce soir, je vais lire deux textes. Le premier s'intitule C. C est un hacker. Que j'ai rencontré à plusieurs reprises et avec qui j'ai échangé autour de ses activités. Et ce texte que j'ai écrit à partir de ces rencontres, ce portrait, a ouvert un travail plus vaste que je mène aujourd'hui avec d'autres autour de la figure du hacker. Et autour des pratiques du hacking, dont l'une des pistes est la figure du hacker. Et c'est le hacker, c'est une identité qui m'intéresse particulièrement, puisque c'est une identité trouble et ambiguë. Ce texte a ouvert ce travail et également toute une série de portraits déterminent pour moi l'époque dans laquelle nous vivons. C'est le deuxième texte que je vais lire ce soir, Mike Brown, qui est un jeune afro-américain tué par un policier blanc en 2014, à Ferguson, une banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Et je me suis intéressée au traitement médiatique, parce qu'il y a eu des émeutes suite à ce crime. Mais il y a eu aussi un traitement médiatique dont Mike Brown a été à nouveau la victime. Certains médias ont utilisé l'image de Mike Brown que vous voyez à gauche sur ce diptyque. Donc Mike Brown qui a l'air menaçant et qui fait ce geste-là, qui est un geste attribué à un gang. Or, d'autres images de lui circulaient dans les médias, notamment celle-ci. Qui donnait une image beaucoup plus positive de sa personnalité. Voilà, je me suis, suite au traitement, à la diffusion de cette image, il y a eu une réaction de la communauté noire qui a posté sur Twitter l'hashtag « If they gun me down ». Donc, en se posant la question, s'il me tirait dessus, quelle image ils utiliseraient de moi. Voilà. Donc, il y a des centaines de personnes qui ont publié sur Internet des diptyques aussi contrastés, des diptyques d'eux-mêmes aussi contrastés, la version négative et la version positive. Et moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et je me suis appuyée sur ces images pour écrire le portrait de Mike Brown, dont le moteur est la description. Mais avant de lire ces deux textes, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les images qu'Olivier vous a invité à regarder au début. Ce sont des dessins. Peut-être que vous pourrez les voir après, si jamais. Et ce sont des dessins de visages de hackers. J'ai posé la question, j'ai passé une commande sur Internet en demandant de dessiner le visage d'un hacker au crayon noir sur une feuille de format A4. Et donc, ce sont les réponses que j'ai obtenues à la demande. Donc, chaque dessin est la réalisation d'une personne différente et d'une personne que je ne connais pas du tout. Ce sont des personnes anonymes et qui viennent aux quatre coins du monde, de par le monde, et qui se représentent et se projettent l'image du hacker telle que voilà, il l'imagine. Pour cela, j'ai utilisé une plateforme de travail qui est The Mechanical Turk d'Amazon. Donc, c'est une plateforme qui met en lien des gens et qui permet de contacter comme ça assez facilement des personnes pour leur demander un travail. C'est une série de 30 dessins que j'ai imprimé, qui s'appelle Portrait Robot. Et au départ, j'avais 90 dessins, j'en ai sélectionné 30. Et donc, dans ces visages de hackers, il y a des détails. Il y a Edward Snowden, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais qui est un hacker pour moi. Et le visage, en tout cas, le masque des Anonymous, et puis d'autres attributs de hacker, les lunettes, le visage grimé, le masque. En tout cas, une sorte de représentation de ce que pourrait être un hacker aujourd'hui. Et ces dessins sont une sorte de contrepoint du portrait de C que je vais vous parler maintenant. Ça fait 20 ans. Là, je suis en mode invisible. C dit invisible en anglais. C répète clean profile. Nous buvons installés à la table d'un café. C parle du passé. À 13 ans, j'ai commencé à programmer en BASIC avec mon premier ordinateur ZX81, processeur Zilog Z80A. Tout le monde voulait des mobs à l'époque. Moi, j'ai eu un ordi. Après, j'ai eu un Commodore, puis un Atari 1040 avec lequel on jouait de la musique au midi. J'étais dans les clubs informatiques, on craquait juste des jeux. On ne peut pas appeler ça du hacking. Plus tard, au lycée, on programmait des PB15 avec un langage objet. Le Turbo Pascal est plus intéressant que le BASIC, interprétatif et lent, alors que le Python, qui vient des Monty Python, est un langage simple. À côté, je bricolais des émetteurs pour les radios libres, je flashais les ROM des calculatrices, c'est-à-dire que je modifiais leur microsystème. Je mettais des micros dans le congélo, ça ne plaisait pas trop. Après un bac E, j'ai fait maths sup techno, j'ai décroché au bout d'un an. C'est dièse H pour 104. C'est un vieux pseudo. Un nickname d'IRC. Pas d'action ou de revendication comme les hackers mégalos qui prennent des noms de romans. Je fais partie de ceux qui sont dans l'ombre. À partir du moment où l'on passe dans l'activisme, on cloisonne tout. Je gagne rien avec du hack. Le but est de jouer. Le moteur reste le jeu, animé par un esprit libertaire. Quand tu hack, la règle de base est OHM. Observe, hack and make. Tu envoies une requête, tu observes, tu attends des semaines. La plupart du temps, le système en face est du Windows. Du DOS, une faiblesse de Windows, une coquetterie de Gates. J'ai commencé à fréquenter les free parties dans les années 90 au moment des Spiral Tribe. Avec le Do It Yourself, les free parties étaient une grosse révolution. Un hors-système complet, tu te démerdes. D'un côté, j'étais attirée par la musique électro, je suis branchée deep ou fly. Mais je n'avais pas une vie de traveleur, je fournissais de l'infrastructure au niveau machine. On s'occupait aussi des beige box en haut des poteaux téléphoniques pour y brancher des répondeurs avec un magnéto. Les gens appelaient le numéro de la beige box et savaient où les rêves avaient lieu. Puis j'ai arrêté les frites. Moi, c'était l'informatique, eux, les DJ. Kill your Mac. Tu vas chez Yahoo, tu t'introduis sur le serveur, tu fais sauter tous les niveaux et tu envoies la liste des mots de passe pour montrer que le système est waste. Les crackers portent atteinte au code source d'un logiciel, mais le but, à 98%, est de pénétrer une machine. Tu regardes un DivX, tu joues avec la vie. Ils peuvent craquer ton compte bancaire, ta machine peut devenir un zombie. D'abord, tu flingues l'adresse MAC, tu as une entrée royale que l'utilisateur ne peut pas détecter, tu ouvres un port avec un microserveur en Python, la machine est infectée, tu la scannes, tu dégages ta ROM, tu flashes et tu la mets en adresse MAC façon broadcast. Ce n'est pas mon rayon. Je suis un cipher. Mon domaine de prédilection est la cryptanalyse. Les crackers introduisent du code et modifient des logiciels. Les mappeurs font des repérages et créent des botnets. Moi, je récupère l'info cryptée et je casse le code. Mais je ne me vois pas monter une massive attaque en brutale force. Maintenant, je suis un back ID. Je ne suis plus activiste, mais consultant. Je ne suis plus impliqué dans quoi que ce soit. Il y en a beaucoup dans le milieu qui se mettent en stand-by. On décroche tous, les uns après les autres. CCC. Le CCC n'est qu'une partie des autres collectifs auxquels j'ai participé. C'est un space, autrement dit, un endroit où tu peux éditer de l'information, un outil de communication avec une logique ultra-libertaire. On était une centaine dans les années 90, on est 3600 aujourd'hui. Jusqu'en 99, j'ai surtout fait de l'intrusion. Tu rentres, tu sors, sans laisser de traces. On faisait très white. J'ai énormément appris. Pendant 10 ans, on a créé des contacts en IRC, puis on s'est rencontrés. Le premier camp, en 99, a été violent. Les gens n'ont pas de visage sur Internet. Ça fusionne. C'est une vraie communauté par la pensée. Mais les idées fondamentales naissent des rencontres physiques. Les camps durent une semaine sur un terrain, en autarcie. C'est du camping avec des séminaires et des conférences 24 heures sur 24. Je n'ai pas de vie de famille. C'est trop prenant. Malgré que je sois reliée aux autres, c'est solitaire. Quand tu es sur un réseau, tu dois être à 100%. Tu ne peux pas être dérangé. IRC, c'est un salon de discussion. On échange sur des serveurs que l'on connaît à 10 puissance 18 fois les niveaux bancaires. Il faut théoriquement 400 milliards d'années pour casser ces codes. Les nouveaux venus sont mis à l'épreuve. Il va falloir qu'ils connaissent des choses qu'ils n'ont pas apprises à Polytechnique. Ceux qui viennent sans que l'on sache pourquoi et qui demandent comment craquer tel ou tel logiciel, on lock en F8. Google is your friend. Ça arrive souvent. Je me connecte à partir de 22h, j'aime bien la nuit pour le silence. L'esprit est plus open. Une fois qu'on est dedans, la discussion est ouverte sur pas mal d'actualités geek. C'est plutôt technique. Une problématique peut durer plusieurs mois. On échange du code, mais on travaille sur des projets communs aussi. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ceux qui retiennent l'info sont éjectés. Dans les années 90, on parlait en LIT. La totalité de la conversation était chiffrée. Maintenant, ce n'est plus exactement du LIT. Le langage et le code sont mêlés. Tu codes et tu tags pour discuter. Il y a des IRC plus tendus, plutôt black. Si tu ne parles pas comme eux, tu te fais traiter comme un chien. Beaucoup sont russes et d'ex-Yougoslavie. Ils produisent du malware, des cracks, ils foutent la merde. La seule accroche est les jeux vidéo. Je joue quasiment plus, mais Warcraft m'a beaucoup occupée. Il y a pas mal de no-life qui sont dessus. J'en connais des no-life. Ils commandent tout sur Internet. J'ai un ami qui n'est pas sorti depuis 6 mois. Il est à un niveau très haut du jeu. Il scripte, il code, il parle de code, de Java, de Python. Plus personne ne contrôle Warcraft. Bullshit vs Bullrun. La NSA a Bullrun, nous on a Bullshit. Bullrun est un outil qui permet de casser n'importe quel code. La puissance de calcul est phénoménale. Aucun dispositif d'écoute n'est inaccessible. Bullshit est plus astucieux. Il inonde le système de cryptographie. C'est un leurre qui change tous les mots de passe et crypte 3/4 des données. Ce qui est plus intéressant encore, ce sont les botnets. Ta machine devient une machine zombie. Tu décuples ta puissance de calcul et tu disperses ce que tu es en train de traiter sur environ 500 000 machines. Tu peux utiliser la carte graphique d'un ordinateur en veille à 80%. Même si tu as un sniff, même si tu as un firewall, tu n'arrives pas à détecter l'activité d'un botnet. 70% ou 80% des machines sont sous botnet. Je suis un grès. On a tous fait des études scientifiques à des degrés différents. Du bac au doctorat, la base est scientifique et mathématique. Si on remonte plus dans l'enfance, on a tous été gamers, on a tous été bidouilleurs. À partir de 2001, les choses ont basculé. Le mouvement est devenu tel quel, parce que la NSA a hyperfliqué le réseau. Elle est à l'origine d'un logiciel de reconnaissance faciale capable d'investiguer des milliers de personnes par heure sur les réseaux sociaux. C'est le plus grand système de fichage mondial et l'information n'a jamais été relayée par la presse. Que tu sois grey, black ou white, la logique libertaire irrigue toute la communauté. Les whites cherchent les failles de vulnérabilité et les corrigent dans le but d'améliorer la sécurité. Les blacks sont des mercenaires et les greys défendent des idées politiques. On est plus ouvert sur les outils de cryptographie, les logiciels libres. L'argent n'est pas le moteur. Notre premier interlocuteur est quand même la machine. On réalise des choses qu'on ne pourrait pas réaliser avec des choses réelles. J'ai passé des heures, des jours à coder, et au bout d'un moment, la relation devient intime. Le principe est animiste. Avec les ordinateurs qubits, les machines prendront des décisions. On ne sera plus dans un rapport de 0 et 1, mais dans un rapport proche de l'intelligence artificielle. L'Internet est complètement dépendant des hackers. Les hackers ont toujours essayé d'améliorer le système. S'il n'est pas parfait, il est perfectible. Une grosse partie du chiffrement qu'utilisent les banques vient de là. Les entreprises sont très cloisonnées. La logique est propre alors que les hackers connaissent bien le réseau global. En France, la politique est répressive. L'activisme n'a pas pu éclore. Les hackers se sont réfugiés vers les logiciels libres pour exister. Depuis la loi de programmation militaire votée en 2013, les outils de cryptographie sont considérés comme des armes de guerre. L'information est édulcorée et commerciale. J'utilise à peine 1% du web. Nous, on est très hype. Mike Brown. Mike Brown se tient sur le seuil d'une maison en briques rouges. L'une de ses mains forme un signe, le pouce, l'index et le majeur dépliés devant le torse. Le visage est fermé, le regard en surplomb fixe l'objectif. Il est habillé d'un t-shirt découvrant ses bras et ses épaules. Mike Brown est en gros plan. Le visage tourné vers l'objectif ne dessine aucune expression particulière. Un casque d'écoute sur les oreilles, son portrait se découpe sur un fond où l'on distingue des enfants dans une salle de jeux vidéo. Sur sa veste bleue est écrit National League Championship 1983. Il est assis à une table en verre. Son buste, légèrement affaissé, occupe presque tout le cadre. Derrière, un mur blanc et un bout de porte. à côté des objets. Il est debout dans une pièce éclairée par un spot en forme de tache lumineuse. Son corps imprime un mouvement vers la gauche, la visière de sa casquette pointe vers la gauche, il regarde l'objectif en inclinant la tête vers la gauche. Sa silhouette se découpe sur un fond jaune. Il se tient face à l'objectif dans un couloir au mur blanc et au sol à damier noir et blanc. Il regarde au-dessus de l'objectif, le corps arqué vers la droite. L'image est floue. Son corps est plié en travers d'un lit, les épaules et la tête contre le mur, les jambes allongées sur le matelas. Il se photographie dans le miroir d'une salle de bain. Les yeux baissés vers le portable, la tête un peu relevée, la bouche entrouverte. Son portrait bouge toute l'image au premier plan. Derrière ses épaules, une foule compacte est prise dans le cadre. Derrière lui, une foule, une barrière, un immeuble. Il pose debout devant un mur blanc. Devant un mur blanc où sont imprimés les blasons du Columbia College du Mississippi. En arrière-plan, des silhouettes partagent le cadre avec une maison et quelques voitures rangées. Adossé au mur, la tête tournée vers la gauche, il regarde quelque part. Elle pose seule devant des chaises vides disposées en arc de cercle. Il est assis sur un meuble bas et sourit à de jeunes enfants et à une femme. À côté de lui, un petit fauteuil, à ses pieds un livre, et devant lui, quelqu'un tend un livre ouvert en direction des enfants. Il est tout près de l'objectif, ses épaules touchent les bords. La fumée qu'il rejette couvre une partie de son visage. Il tient l'embout d'un tuyau noir qui court le long de son autre main posée sur la table. Il sourit à l'objectif, un petit garçon rieur sur les épaules. Il tient un portable dans une main et fait un signe avec l'autre main, le majeur et l'annulaire repliés. Les bouts de l'annulaire et du majeur se chevauchent, le bras tendu devant lui, l'index pointe l'objectif. Elles sont deux, dans les bras l'une de l'autre. Il désigne de l'index le texte écrit sur son t-shirt « Fuck da recession, it just makes shit happen ». Le texte « Bitch, I'm real » est imprimé sur son t-shirt. Son sweatshirt est bleu marine. Quelques lettres blanches se reflètent sur la table. Devant sa doudoune camouflage se détache une arme en plastique vert fluo. Le logo de la marque Nike brille sur ses baskets. Un bandana bleu lui enserre le crâne, un tissu noir autour du crâne, un bandeau rouge, un chapeau militaire, un chapeau de diplômé, des chapeaux de paille. Sur son t-shirt noir, un dessin aux traits blancs représente une coiffe d'Indien. Une robe universitaire, un diplôme en main et un bouquet de fleurs dans les bras, elle chausse des escarpins roses sur des jambes nues. Un collier de perles lui ceint le cou. Elle sourit. Une robe universitaire, une écharpe rouge de l'ordre Kappa Alpha autour du cou, il sourit. Un habit militaire, le drapeau américain visible sur son épaule, son arme plaquée contre lui, il sourit. Il porte un uniforme blanc et une cravate noire. Quelques écussons colorent le haut de sa poitrine. Le soleil touche son visage. Il porte une chemisette bleu ciel.
Voilà. Merci Karine pour ce partage. On peut dire aussi que le texte que tu as lu vient de l'expérience du récit. Je ne sais pas si on a des exemplaires ici, mais voilà, c'est ça. Il est très frais ou il est...
Non, il n'est pas si frais que ça.
Mais on ne l'a pas. Alors si on ne l'a pas, c'est quand même que vraiment il a dû passer sous les radars de Kiasma. En tout cas, c'est un texte à découvrir cette petite édition. Pour dire aussi qu'à l'origine du portrait de Mike Brown, il y avait une première invitation qu'on a fait à Karine Lebrun. Comme je sais que certains d'entre vous sont bretons, on ne peut pas dire que tout se passe en Bretagne parce que moi je viens d'y aménager, mais quand même, Il y a des choses qui se passent en Bretagne très passionnantes, et notamment, en fait, on a accueilli ici un projet, une exposition et un projet d'un artiste anglais qui s'appelle Louis Anderson. On montrait ici donc un film qu'on a produit qui s'appelle Black Code, Code Noir, et qui donnait lieu, dans le cadre de l'exposition qu'il avait ici au mois de juin, à une forme de workshop, work in progress. En fait, Black Code, Code Noir est un film, mais un peu un film in process. Donc c'est un film qui existe, c'est un court-métrage. Il a été montré à pas mal d'endroits, il sera encore montré assez régulièrement en France. Et c'est un film qui pose une hypothèse de travail qui va relier, en fait, les algorithmes des logiciels de la police américaine avec l'idée du code noir et du black code. Donc le code noir, ça va être le code de l'esclavage dans les colonies francophones, et le black code, c'est un code un petit peu différent mais qui a suivi dans les colonies britanniques. Et l'hypothèse du film, c'est de relier, en fait, les algorithmes, les rapprocher, en fait, d'un principe de code qui serait aussi une manière d'organiser les meurtres de la communauté noire aux États-Unis. Alors le projet, le film a été réalisé, on a travaillé il y a 2 ans, juste après, en fait, dans la foulée des premiers meurtres, en fait, aux États-Unis. Et le propos du film semblait un peu exagéré pour beaucoup de gens, pourtant le film a été très montré, et il s'est finalement non pas avéré visionnaire, mais en tout cas les faits ont confirmé qu'il y avait bien, en tout cas, une dynamique systémique qui pouvait être identifiée. Vous avez peut-être suivi le mouvement Black Lives Matter, qui montre à combien, en fait, maintenant, l'une des revendications, c'est de souligner une systémique meurtrière et violente de l'État américain à l'endroit de la communauté afro-américaine. Et au-delà de ce projet-là, du film de Louis Anderson, qui est un court film qui va relier donc le code noir historique de l'esclavage au logiciel de la police. En gros, ce logiciel de la police en question dont on parle, c'est un logiciel d'intervention policière. Je dis ça très vite, peut-être pour vous compreniez de quoi il s'agit, mais en gros, la police américaine, c'est un pays qui est un peu différent de nous, les États-Unis, parce qu'à la fois, les choses sont un peu plus extrêmes et paradoxalement plus contrôlées. Mais pour essayer, en tout cas, de se défaire de l'accusation de racisme, la police américaine a essayé d'élaborer des méthodes, en fait, d'intervention qui pouvaient paraître objectives. Alors c'est un truc qui n'existe pas en France, hein, parce que la police ne peut pas être accusée de racisme, et donc elle ne va pas avoir des méthodes qui vont tenter de prouver qu'elle ne l'est pas. Donc les États-Unis, eux, par contre, dans leur pays, c'est audible. Et pour essayer de montrer qu'ils ne l'étaient pas, ils ont construit un système d'agrégation, en fait, d'informations sur un territoire qui va donner après des ordres d'intervention aux patrouilles de police. Donc elles ne patrouillent plus au hasard, mais elles obéissent à un logiciel qui fait un programme d'intervention. Vous allez aller patrouiller ici, ici et ici, en fonction de données qui sont accessibles. En gros, il y a eu un crime là, là et là. Et donc, comme c'est agrégé, on va vous demander d'intervenir selon des zones qui sont potentiellement dangereuses. Étant entendu que l'information vient de crimes constatés, donc pour qu'il y ait un crime constaté, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une plainte qui soit déposée. Donc vous imaginez, dans les quartiers les plus dangereux, où les gens se plaignent pas forcément, en fait, des crimes, et ils deviennent pas dangereux pour le logiciel. En gros, plus le quartier est dégradé et moins les gens se plaignent, et plus le quartier est plutôt une zone de friction entre des classes intermédiaires et des classes pauvres, plus il y a de plaintes. Donc les endroits qui sont dangereux dans la machine ne sont pas forcément ceux qui sont les plus dangereux dans la réalité, mais ceux dans lesquels il y a des plaintes. Et pour compléter, le logiciel n'enregistre pas, en fait, comme crime les meurtres commis par la police. C'est que des choses qui sont commises entre les citoyens ou contre la police, évidemment, et enregistrent donc des régimes de crimes qui peuvent passer du fait qu'on a insulté un policier jusqu'à, effectivement, des meurtres. Toujours est-il que donc cet outil-là existe et est exploité dans beaucoup de grandes villes américaines, et donc est un système de donneur d'ordre. Donc c'est vraiment une espèce d'application qu'ils utilisent pour faire des patrouilles. Et donc la patrouille du jour est un algorithme. Donc il y a un ordre de machine qui organise où doit aller la police, et donc la police obéit à un ordre qui est donné par un algorithme. Bien évidemment, le problème qui se passe, c'est que plus la police patrouille dans des endroits qui sont potentiellement dangereux, plus elle constate de choses, de petits ou de grands crimes, plus elle augmente la dangerosité de l'endroit. Donc plus la police intervient, plus l'endroit est dangereux. Ce qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'en gros, la présence de la police va sécuriser l'espace. Non, plus en fait, ils constatent des délits enregistrés par la machine qui rend l'endroit encore plus dangereux dans la machine. Toujours est-il que cet outil-là que Louis a découvert, il l'a relié à la question d'un code noir, d'un cadre d'organisation sociale et racialisée aux États-Unis. Et ça a fait beaucoup de débats. Et pendant un an, le film a été montré dans beaucoup de festivals dans le monde avec des débats un peu virulents. Et ce qu'on a décidé, moi je l'avais un peu décidé avant que le film sorte, et lui il l'a décidé, il a été plutôt d'accord avec moi au bout de cette année-là un peu pénible, c'est d'organiser en fait des sessions qu'on a appelées les Black Code Sessions. Et ces sessions-là, c'est que plutôt que de venir apporter une critique sur un film, c'est de venir de demander à des gens, à un ensemble de personnes, de passer une journée à venir apporter des matériaux qui, d'un certain point de vue, compléterait en fait ce que la perspective du film, qui est un film court, qui dure 20 minutes. Et donc la première Black Code Session à laquelle a participé Karine Lebrun, avec des artistes, des chercheurs, des théoriciens, a eu lieu au mois de juin ici à Kiasma. Et donc on a élaboré à partir de ce premier film, un film complété par d'autres objets qui sont, avec Sophie Vaniche, on a reparlé de la question du code noir et de la Révolution française. Avec Karine, on a parlé de la question effectivement du rôle de la production d'images et de portraits dans le cadre de ces drames. On a aussi parlé, on a aussi ajouté donc au corpus du film Black Code des clips de musique, des extraits de films, des textes, etc. Et donc ce projet-là, c'est de déplacer à chaque fois dans un contexte précis ces Black Code Sessions pour montrer en fait comment, quand cette question est adressée dans un contexte, ce qu'elle provoque comme type de réaction et de possibilité d'augmenter le film. Donc, tout à l'heure, on parlait avec une étudiante ici de photographie. Ben là, au même endroit que moi, je mettais un peu en critique la question de la photographie comme objet un peu arrêté de l'histoire de l'art. Là, c'est typiquement un film, un court-métrage. Il doit avoir été montré dans 30 festivals en un an et demi, ce qui est énorme. Et pourtant, on l'a transformé en objet qui dépasse la question du film, puisqu'en fait, maintenant, c'est un film où s'agrègent d'autres propositions d'autres gens, et donc l'objet devient quelque chose qui n'a pas vraiment de nom et qu'on va reproduire à plusieurs endroits. Donc, il y a une Black Code Session en Allemagne, à Cologne, au mois d'octobre, et à Rennes, en collaboration avec les Beaux-Arts de Rennes et avec FACT, au mois de novembre, 17, 18 et 19 novembre. Le système, il y a une soirée où on présente les films, une soirée de workshop avec des invités et une soirée de restitution et de débat dans le contexte. L'idée que moi j'ai défendue, parce que voilà, je suis commissaire d'exposition et que je participe à beaucoup de débats qui se partent de par le monde, avec une espèce de communauté mondiale de pensée. Et j'ai eu envie, à l'inverse, de très localiser les choses. Donc, dans chacun des contextes, les invités sont des gens qui sont actifs dans le contexte. C'est-à-dire qu'en Bretagne, c'est plutôt une scène bretonne, et même rennaise, qui va être invitée à venir réfléchir à cette question-là, et la question des violences policières et de leur... et ce qu'elle signifie comme organisation sociale, posée dans le contexte de la breton, avec évidemment une couleur qui est donnée, parce que c'est Karine qui mène ce workshop-là cette fois-ci, avec l'introduction de la question du hacking, qui est aussi un peu présent, c'est-à-dire si on veut, si on imagine changer des objets qui sont des objets législatifs ou des pratiques, lorsqu'ils touchent à la question numérique, la question de les hacker peut être effectivement aussi une question, puisqu'il y a un algorithme qui aujourd'hui donne des ordres de mission à la police. Pourquoi ne pas hacker cet algorithme? C'est aussi l'une des questions. Donc voilà, je voulais vous dire qu'à Rennes, en novembre, on aura une autre Black Code Session qui va se retrouver après aussi à Berlin, à Londres, pour en 2017 faire une Black Code Session à Chicago, qui est aussi important. Voilà, étant entendu, parce que c'est aussi pas un détail, parce que tu as parlé des États-Unis, que s'il y a un pays qui n'aime pas que des gens parlent de lui à sa place, c'est bien les États-Unis. Donc pour le Black Code Session, quand le film a été montré là-bas, ils ont dit, voilà, mais comment un Anglais, parce que lui, Anderson est anglais et il est blanc, comment un Anglais blanc, a priori, Anglais a été mis avant blanc, comment un Anglais blanc peut parler de ce que vivent les Noirs, les Américains noirs. Donc la proposition était de faire une Black Code Session à Chicago avec la communauté noire des activistes américains. Donc voilà, c'était pour redonner un contexte élargi. Merci beaucoup, Karine, en tout cas, pour cette belle proposition qu'on va suivre. Oui, pour dire en lien avec, en tout cas, ces soirées, relecture, ça continue. Donc, il y a une pause demain, parce qu'on a 10 jours de festival. Demain, c'est relâche, comme on dit dans les théâtres. Donc, nous, demain, en fait, on va faire... Parce que, bon, il faut aussi dire à la manière d'autres. On reprend mardi. Et en fait, mardi, il y a deux propositions qui sont en lien avec ce qu'on a discuté ce soir et un petit peu ces questions aussi de culture noire, puisqu'on a une conférence de Vincent Piollet, pas très loin ici, à la Maison des Fougères dans le cadre du festival autour de la naissance, de l'histoire de la naissance du mouvement rap en France. Donc voilà, sur la décennie 80-90. Et on accueille ici le même soir à 21h Jamika Jalon, qui est une performeuse autour des figures alien black queer. Voilà, tout est dit. Merci à vous.